aujourd'hui à Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 4 octobre 2018. Au moins 6 soldats tués dans l'explosion d'un engin artisanal au Burkina Faso. L'opposant béninois Sébastien Adjavon, de nouveau jugé dans une affaire de trafic de drogue pour laquelle il avait été relaxé. Au Tchad, l'ex-chef de guerre Abdelkader Babalade renvoyé devant la cour criminelle. États-Unis, l'enquête du FBI sur l'affaire Kavanaugh est entre les mains des sénateurs américains. Et la Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Au moins 7 morts dans une double attaque au Burkina Faso. La nuit dernière, un gendarme a été tué et ce matin, au moins 6 soldats ont péri dans l'explosion d'un engin improvisé. Notre correspondant Lamine Traoré nous en dit plus.
Un véhicule militaire a sauté sur une mine ce matin, non loin de Gayeri, dans l'est du Burkina. Pour le moment, il n'y a pas de réaction ni de bilan officiel, mais des sources sécuritaires annoncent au moins 6 morts et des blessés graves du côté des forces de défense et de sécurité. Avant cette attaque, ce matin, hier nuit, un détachement de la gendarmerie nationale, basé à Inata, dans le Sahel, a été la cible d'une attaque de grande envergure, perpétrée par un grand groupe de terroristes lourdement armés, selon un communiqué ce jeudi des services de sécurité. Selon le ministère de la Sécurité, les gendarmes ont pu repousser les assaillants. Les bilans fait état d'un gendarme décédé et d'un autre blessé. Cette attaque intervient quelques semaines après la mort de 3 gendarmes à Tongomayel, situé à une trentaine de kilomètres d'Inata. Selon le gouvernement, depuis 2015, plus de 230 personnes, militaires comme civiles, ont été tuées dans de multiples attaques attribuées à des djihadistes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Au Bénin, l'opposant et homme d'affaires Sébastien Adjavon sera de nouveau jugé par un tribunal spécial à Porto Novo dans une affaire de trafic de drogue pour laquelle il avait été relaxé il y a 2 ans. Nani Talani nous en dit plus.
Le prévenu absent était représenté par 10 avocats qui ont dénoncé des violations flagrantes de ses droits devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La CRIET, qui a démarré ses activités fin août, est une juridiction séparée qui a compétence pour juger les flagrants délits liés au terrorisme, à la criminalité économique et au trafic de drogue. Sébastien Adjavon a été convoqué moins d'une semaine avant l'audience pour affaire le concernant, sans qu'il lui soit signifié s'il devait comparaître en tant que témoin ou inculpé. En arrivant ce jeudi à la cour, ses avocats ont découvert que leur client et 3 autres prévenus sont accusés de trafic de drogue international à haut risque, infraction punie de 10 à 20 ans de prison. En 2016, M. Adjavon avait déjà été jugé et relaxé pour les mêmes faits, faute de preuves et au bénéfice du doute. Cette relaxe n'ayant fait l'objet d'aucune procédure en appel, la défense d'Adjavon estime qu'elle est définitive. Après 20 minutes de vif débat, le président de la cour a renvoyé l'audience au 18 octobre.
La Banque centrale du Libéria a assuré que des billets de dollars libériens imprimés à l'étranger avaient bien été placés dans ses réserves, démentant ainsi, après 3 semaines de polémique, que des conteneurs de billets aient disparu. La Banque centrale du Libéria tient à affirmer au public et à nos partenaires qu'il ne manque pas 16 milliards de dollars libériens, comme cela a été faussement rapporté dans les médias, a déclaré le gouverneur de la BCL, Nathaniel Patré. Human Rights Watch a dénoncé ce jeudi les conséquences néfastes sur l'environnement et les populations en Guinée de la croissance fulgurante de l'exploitation de la bauxite, principal minerai permettant la production d'aluminium. La Guinée, qui détient les principales réserves mondiales de bauxite, en est le 3e exportateur mondial et le 1er à destination de la Chine. Au Tchad, la chambre d'accusation a rendu le verdict dans l'affaire du ministère public contre l'ex-chef de guerre Abdelkader Babalade. Elle a rejeté la requête de ses avocats qui demandaient sa libération. Des précisions avec notre correspondant N'Djamena, André Kodmadjingar.
Le président de la chambre d'accusation, Boukar Sidik, confirme la réquisition du parquet général et ordonne le renvoi du prévenu devant la cour criminelle siégeant à N'Djamena pour assassinat, vol à main armée, viol et incendie volontaire. Le délibéré pour la confirmation des charges prévues ce jeudi a été rabattu parce qu'un conseiller aurait claqué la porte. Une autre composition a été faite et les débats sont réouverts, séance tenante. Les avocats de la défense ont brandi l'ordonnance 19 du 31 mai 2018 signée du président Déby portant amnistie des atteintes à l'intégrité de l'État de juin 1991 jusqu'à la publication de cette ordonnance pour demander la libération de leur client. Mais c'était peine perdue. L'un des avocats du prévenu, maître Alain Kagombe, se dit déçu de ce verdict.
Je crois qu'un juge n'a pas accepté les cabales qui sont en train d'être montées contre Babaladi. Et donc il va falloir remplacer ce magistrat-là. Et le résultat, c'est ce que je viens d'avoir avec ce verdict.
Arrêté à Bangui en République centrafricaine le 8 décembre 2014, puis confié aux autorités tchadiennes, Mahamat Abdelkader alias Babaladi a passé plus de 4 ans derrière les barreaux sans être jugé. Pour le procureur général Mokhtar Abdelhakim Doutoum, les faits reprochés à Babaladé ne sont pas couverts par cette ordonnance et donc il doit répondre de ses actes lors de la cour criminelle qui sera convoquée dans les prochains jours. André Kodmadingar N'Djamena, VO Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé au Conseil de sécurité de prolonger d'un an le mandat de la force de paix au Sahara occidental afin de soutenir la reprise de négociations en décembre à Genève. Le Maroc et le Front Polisario ont accepté de participer à ces discussions préliminaires, précise-t-il, en se disant confiant sur les réponses attendues de l'Algérie et de la Mauritanie, également invités aux négociations. Les services de sécurité soudanais ont confisqué l'ensemble des tirages de deux journaux, deux jours après une rencontre organisée par l'Union européenne avec des journalistes sur la liberté de la presse au Soudan. Les agents ont saisi les exemplaires des quotidiens Al-Tayar et Al-Jarida. Mardi, les journalistes avaient plaidé pour le respect de la liberté de presse et évoqué notamment la saisie de tirages.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sénateurs américains ont reçu ce matin un rapport du FBI sur le juge Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême. La Maison-Blanche se dit confiante qu'il sera rapidement confirmé. Abdourahman Dia.
L'exécutif américain a transmis au Sénat les résultats de cette enquête complémentaire sur le candidat à la Haute Cour des États-Unis, accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle ou de comportement déplacé dans sa jeunesse. Avec ces informations supplémentaires, la Maison-Blanche est parfaitement confiante dans le fait que le Sénat votera en faveur de la confirmation du juge Kavanaugh, a déclaré le porte-parole de l'exécutif Raj Shah. C'est un homme bien, d'un grand intellect. Le pays est derrière lui jusqu'au bout, a tweeté le président Trump. Des centaines de militants opposés à l'arrivée du magistrat à la Cour suprême se sont donné rendez-vous à Washington pour mettre la pression sur les sénateurs, espérant que certains républicains voteront contre le juge Kavanaugh. Dans le New York Times, plus de 650 professeurs de droit ont signé une tribune appelant le Sénat à ne pas confirmer la nomination du magistrat. Le chef des sénateurs républicains, Mitch McConnell, a annoncé un vote d'étape vendredi sur la clôture du débat et un vote final sur la confirmation du juge, peut-être dès samedi.
La Chine s'ingère dans la politique américaine pour un changement de président, a déclaré le vice-président des États-Unis, Mike Pence, dans un discours sur la stratégie gouvernementale à l'égard de Pékin, reprenant ainsi des accusations déjà émises par Donald Trump. Il a aussi jugé que l'ingérence russe dans la politique américaine n'était que peu de choses par rapport à ce que la Chine fait à travers ce pays, selon ses termes. Des puces informatiques insérées dans des ordinateurs américains fabriqués en Chine ont été utilisées par Pékin dans une vaste entreprise de vol de secrets technologiques, affirme Bloomberg après investigation. Ces puces ont été utilisées sur des équipements fabriqués pour le compte d'Amazon, qui a été la première entreprise alertée par les autorités américaines. Apple ainsi que d'autres sociétés et des agences gouvernementales pourrait être également concerné par cet espionnage industriel, selon l'agence d'information. La justice américaine a annoncé l'inculpation de 7 agents présumés du renseignement militaire russe dans le cadre d'une campagne mondiale de cyberattaque attribuée au Kremlin et dénoncée par les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada et l'Australie. Ces inculpations comprennent 4 agents russes expulsés par la haie, indiqué John Demers, ministre adjoint de la Justice pour la Sécurité nationale. Les Pays-Bas disent avoir expulsé 4 espions russes après une tentative de piratage du siège de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la haie. Et 7 soldats turcs ont été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale déclenchée par des séparatistes kurdes dans le sud-est de la Turquie, selon les autorités locales et l'agence de presse étatique Anadolu. Un premier bilan avait fait état de 4 morts et 5 blessés, mais 3 de ces derniers ont succombé à l'hôpital, selon un communiqué du gouvernorat de Batman. Deux astronautes américains et un cosmonaute russe sont revenus sur Terre ce jeudi. C'est une autre nouvelle, vous l'avez bien compris, dans les steppes du Kazakhstan, après avoir passé 6 mois en orbite à bord de la Station spatiale internationale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
La Banque mondiale revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2018 à 2,7%. La précédente estimation était de 3,1%. La lente expansion des 3 plus grandes économies de la région, le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, explique ce résultat. La dette publique élevée, la dépréciation des monnaies nationales et la hausse des taux d'intérêt pourraient compromettre la capacité de certains pays à assurer le service de la dette. Le Sénégal reçoit de la BAD un prêt d'environ 70 millions de dollars pour l'exécution de la deuxième phase de son programme de développement communautaire. Le coût total du programme est estimé à plus de 187,5 milliards de dollars sur 4 années. Il vise à réduire le taux de pauvreté en milieu rural de 67 à 54%. Plus d'une centaine d'entreprises agricoles rurales, de forage et de périmètres horticoles sont prévues et près de 710 km de pistes rurales devraient également être construits, sans oublier l'implantation de plusieurs centrales solaires et réseaux électriques et la construction de 70 postes de santé équipés à travers le pays. Le Zimbabwe veut supprimer plusieurs emplois gouvernementaux pour relancer et stabiliser son économie. Plus de 90% des recettes publiques constituent l'énorme masse salariale. Aucun chiffre n'a été révélé sur le nombre d'emplois qui seront affectés. Harare vise notamment une croissance de 5% cette année.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Tanguy Ndombele s'éloigne des Léopards.
Ciblé par la RD Congo, pays de ses origines et auteur d'un bon début de saison avec Lyon, le milieu de terrain a été appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps. Il a été convoqué en vue du match amical contre l'Islande le 11 octobre et de celui de la Ligue des Nations contre l'Allemagne 5 jours plus tard. Pour l'instant, Tanguy Ndombele reste néanmoins éligible avec la RDC, mais ce ne sera plus le cas dès l'instant où il aura pris part à un match officiel.
De bonnes nouvelles pour Naby Keïta.
Sorti sur civière hier lors du match de Ligue des Champions contre Naples perdu 0-1, en raison de douleurs au dos, le milieu de terrain de Liverpool a passé la nuit à l'hôpital. Mais la presse anglaise indique que le Guinéen a effectué des examens qui n'ont rien révélé d'inquiétant et que le joueur a pu rejoindre ses coéquipiers avant leur départ d'Italie. D'après le Liverpool Echo, Naby Keïta pourrait même rejouer dès dimanche à l'occasion du choc contre Manchester City en Première Ligue.
Le Burundi avec Beraino contre le Mali en éliminatoire de la CAN 2019.
Auteur d'un but pour sa première cape le mois dernier, 1-1 contre le Gabon, l'attaquant de Stoke City, Saïdio Beraino, figure à nouveau dans la liste des 18 joueurs dévoilés ce jeudi par le sélectionneur du Burundi, Niyongeko Alain Olivier. Cette double confrontation contre le Mali aura lieu les 12 et 16 octobre prochains. Le match aller à Bamako, le match retour à Bujumbura. le milieu de terrain Gaël Biguirimana de Maverwell FC en Écosse et le buteur Fiston Abdoul Razak de la JS Kabylie en Algérie ont été eux aussi convoqués.
Et en Algérie, justement, Rabah Sadane a démissionné.
Tout à fait, le directeur technique de la fédération âgé de 72 ans a rendu son tablier. Nommé le 15 octobre 2017, Rabah Sadane n'a pas précisé les raisons de sa démission, mais la presse locale a évoqué une relation tendue entre le technicien et la fédération algérienne de football. Rabah Sadane avait déjà dirigé les Fenecs lors de deux phases finales de la Coupe du Monde, notamment en 1986 au Mexique et en 2010 en Afrique du Sud.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Encore quelques jours au Cameroun pour la campagne électorale qui s'achève samedi. Pour ce scrutin présidentiel à un tour, le président sortant Paul Biya, au pouvoir depuis 36 ans, part favori malgré la crise anglophone. Les observateurs notent toutefois que cette année, la campagne suscite plus d'engouement que lors des trois dernières élections. Sur cette question, voici un reportage de notre envoyé spécial à Yaoundé, Bagassikoura.
Cette année, le scrutin présidentiel semble un peu plus ouvert au Cameroun. Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 36 ans, fait face à 8 challengers, dont le plus jeune Cabral Libye, à 38 ans. Une nouvelle offre politique donc, une jeunesse pour affronter Paul Biya en quête d'un septième mandat.
En 2011, par exemple, la campagne était relativement terne.
Stéphane Akwa est politologue et chercheur à la Fondation Paul Ango Ella.
Notamment parce que ceux qui s'opposaient à M. Biya le faisaient avec une résignation et un engagement si modéré, si peu convaincant, qu'évidemment les électeurs n'ont pas suivi et le taux d'abstention était relativement fort. Aujourd'hui, il y avait la possibilité, quelques-uns ont vu une fenêtre dans laquelle ils pouvaient passer, par laquelle ils pouvaient s'engouffrer, qui permettrait plus que de challenger M. Biya.
La campagne de deux semaines s'achève ce samedi et Elections Cameroun, ce qui sert ici de commission électorale, assure que tout est fin prêt pour la bonne tenue du scrutin.
Elections Cameroun est prêt sur toute la ligne et nous n'attendons que le jour J.
Eno Abrams Egbe est le président d'Elecam, Elections Cameroun.
Il y aura élection dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans tous les arrondissements de la région du nord, des régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Une assurance d'autant plus importante que ce scrutin se déroule dans un contexte de conflit dans trois régions du pays. L'extrême nord est régulièrement attaqué par les militants de Boko Haram. Les deux régions anglophones du nord et du sud-ouest sont secouées par une crise séparatiste armée. Et de nombreuses questions demeurent au sujet du vote de plusieurs centaines de milliers de déplacés et enfuit les zones en conflit. L'avocat camerounais anglophone Akbor Bala, président du Centre des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique, reste sceptique.
As we speak, we have close to 140 villages that have been burned down.
En ce moment, il y a près de 140 villages qui ont été incendiés dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, qui sont complètement désertés. Donc, avec ce nombre de villages, nous avons au moins 535 000 déplacés. Il y a environ 50 000 réfugiés au Nigeria. Ce ne sera pas faisable et possible pour ceux dont les villages ont été détruits de voter.
Quelques 6,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes dimanche. Pour ce scrutin à un seul tour, les résultats sont attendus dans les 15 jours suivant le vote. Bagassikoura à Yaoundé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala au Cameroun sur Radio Balafon FM 90.2.
Autres élections en Afrique centrale ce week-end, notamment au Gabon. En effet, les électeurs gabonais sont appelés à voter samedi à des élections législatives et locales. En août 2016, la réélection contestée d'Ali Bongo face à Jinping avait entraîné des manifestations violentes. Après s'être rassemblé derrière Jinping, l'opposition gabonaise est fracturée. Monsieur Ping ne s'est pas prononcé sur le scrutin de samedi. Des opposants appellent à le boycotter, mais la majeure partie a décidé d'y participer. Sur les enjeux, Idriss Fall a recueilli la réaction de Faustin Boukoubi, ancien secrétaire général du PDG, le parti au pouvoir.
Il s'agit de désigner des députés qui vont donc contrôler l'Assemblée nationale où les textes sont pris et le budget voté. C'est un enjeu important pour la gouvernance. Le président de la République a besoin d'une majorité pour gouverner.
Ce scrutin est doublé d'élections locales.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ensuite, il y a les élections locales. Là, c'est le contrôle des collectivités locales. Pour la mise en œuvre de la politique gouvernementale, il importe que, à la base, proximité de la population, il y ait une harmonie entre ceux qui gèrent cette base-là et ceux qui gouvernent. L'enjeu, là, c'est de pouvoir contrôler la politique locale, la politique de proximité. Les élections locales sont également importantes.
Ce sont les premières élections depuis 2016. Est-ce que les partisans de Jinping participent à ce scrutin?
Si on prend ceux qui ont soutenu M. Jinping en 2016, on peut dire aujourd'hui que oui, beaucoup de ces soutiens participent aux élections. Maintenant, il y a parmi ceux qui l'ont soutenu, ceux qui ne sont plus avec lui depuis quelque temps. Ceux-là, pour la plupart, ils participent aux élections. En revanche, parmi ceux qui sont restés attachés à lui, il y en a qui participent directement ou indirectement, et peut-être que d'autres officiellement disent qu'ils ne prennent pas part à ce scrutin.
Apparemment, les résultats sont connus d'avance. Le PDG va sortir largement vainqueur.
Ça peut être le souhait, le vœu des PDGistes que nous sommes, mais une élection n'est jamais gagnée d'avance. Les différents candidats font preuve de détermination, quel qu'en soit le bord. Moi, j'étais hier chez un de mes frères, un cadet, qui est candidat. Ils sont 7 sur son siège à briguer, à solliciter les suffrages des électeurs. Et tous se battent, on les croise sur le terrain. Donc, on ne peut pas dire que c'est plié, que c'est gagné d'avance. Non, je m'y refuse. Quand bien même, chacun espère gagner, et le PDG en premier.
C'était Faustin Boukoubi, ancien secrétaire général du PDG, le parti au pouvoir au Gabon.
Bonjour, c'est Abdourahmane Dia. Je vous donne rendez-vous à 18h temps universel dans votre émission À votre avis. Et c'est pour parler du financement des partis politiques en Afrique. La plupart des formations politiques sont financées en grande partie par leurs dirigeants. Les fonds collectés auprès des militants sont insignifiants. Les chefs de parti doivent-ils financer eux-mêmes les activités de leur formation politique? Comment faire pour éviter des financements illicites qui pourraient influencer les hommes politiques? Pourquoi la culture de la cotisation des militants n'est pas répandue? Laissez vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
La rentrée des classes est perturbée en Guinée, où les élèves n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école à cause d'une nouvelle grève des enseignants du pré-universitaire qui paralyse les cours. Les syndicats des enseignants réclament de meilleures conditions de travail. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
À l'école primaire de Sangoya, les salles sont vides d'élèves. Au premier étage, un groupe d'encadreurs travaille dans un bureau. Même s'ils défendent la cause commune, pour ces enseignants, l'éducation des enfants reste le plus important. Fatoumata Oulare.
Je suis venue parce que c'est mon lieu de travail, je suis enceinte. Depuis hier, je me suis présentée, mais malheureusement, il n'y avait pas d'élèves. Les élèves ne viennent pas. Donc, nous demandons aux enfants, aux parents d'élèves de laisser les enfants venir, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui se trouve en jeu.
Le mot d'ordre de grève est lancé une nouvelle fois par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, qui réclame au gouvernement guinéen 8 millions de francs guinéens comme salaire de base. La situation inquiète les parents d'élèves. Il faut négocier, propose Fassiné Condé, président de la coordination régionale des parents d'élèves de la ville de Conakry.
Ils ont demandé 8 millions, ils pourraient demander 40 millions, 50 millions, mais l'État dit, oui, nous ne pouvons pas donner les 10 millions, mais on peut donner moins 500 francs. En ce moment, les parents d'élèves peut-être pouvaient venir appuyer le gouvernement, parce que nous ne pouvons rien. Ce sont eux qui gèrent les budgets de l'État, ce n'est pas les parents d'élèves ni les enseignants. Et ils ont demandé, et il est très difficile qu'un enseignant aille à l'école si ces conditions primaires ne sont pas remplies.
Négocier, oui, mais il faudrait que le syndicat des enseignants tienne compte des possibilités du gouvernement, fait remarquer à son tour Daouda Souma, vice-président des parents d'élèves de Matoto.
L'État ne peut faire que ce qu'il doit. C'est aux syndicalistes aussi d'accepter ce que l'État pourra leur proposer, si petit soit-il. Donc si cela se passe ainsi, je crois que les deux parties pourront s'entendre. Mais ils ne sont pas les seuls fonctionnaires parmi des milliers de fonctionnaires de l'État.
Rencontré devant la cour de son école, Alpha Issiaga Diallo appelle les deux parties à trouver une issue à la crise.
Si tu restes en étudier, tu es nul. Tu es comme un chien dans la rue, quoi. C'est pour cela que j'aime étudier. Rendre mes parents, ma famille riche. Demain, pour que je dois être un ambassadeur de ma famille. Si on reste comme ça, on paralyse des cours entre le gouvernement et le SLEG. Ça, vraiment, ce n'est pas de bon choix.
Dans la capitale, cette nouvelle grève des enseignants est très commentée. Dans les rues de Conakry, les Guinéens s'expriment sur la question sans se faire prier.
Quand l'enseignant est bien payé, il va bien enseigner. Et là, il va bien former les enfants. Mais quand il est mal payé, vraiment, il est prêt à faire tout. On peut même tricher les bacs, les choses. Donc ça sera une formation médiocre.
Depuis, une voie avait été dégagée pour les négociations sur un salaire de base de 8 millions de francs guinéens pour tous les enseignants. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Human Rights Watch a documenté plus de 1000 civils tués à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis octobre 2014. Cette organisation américaine des droits humains accuse des combattants non identifiés et s'inquiète de ces violences qui continuent. Eric Manirakiza a joint à Bruxelles la directrice adjointe du département Afrique de Human Rights Watch, Ida Sawyer.
Nous avons fait cette recherche à travers cette mission de recherche à Beni, dans le territoire de Beni, et des interviews avec plusieurs victimes, témoins, et aussi en collaboration avec des activistes locaux. On a aussi interviewé des officiers des forces de sécurité, des membres des groupes armés, des officiels des Nations Unies qui nous ont aidés à documenter ces attaques. Depuis le début de cette année, 2018, nous avons maintenant documenté au moins 235 personnes qui ont été tuées avec l'attaque la plus récente, juste le 22 septembre, où des combattants ont tué 17 personnes dans la ville de Beni. Deux jours plus tard, à Ouitcha, des combattants ont enlevé 16 personnes, pour la plupart des enfants, qui sont toujours portés disparus.
Vous demandez à la Cour pénale internationale de s'en occuper. Pourquoi ne pas référer ce cas au gouvernement de Kinshasa?
C'est parce que nous avons vu que les autorités congolaises, jusque-là, ils n'ont pas enquêté ni ouvert des poursuites judiciaires de manière crédible pour ces atrocités. Et nous craignons que ces meurtres brutaux d'habitants de Beni ne cesseront pas tant que les commandants des forces responsables ne seront pas traduits en justice. Et on pense que nous sommes dans une situation maintenant où il faut l'intervention de la CPI pour vraiment ouvrir des enquêtes crédibles sur tous ces massacres et assurer que les responsables soient traduits en justice dans des procès crédibles.
Avez-vous identifié des présumés responsables?
Les autorités congolaises de l'armée et du gouvernement affirment que la quasi-totalité de ces massacres ont été commis par des membres des forces démocratiques alliées, donc la ADF, groupe armé islamiste ougandais qui est présent dans la zone depuis 1996. Mais selon nos recherches, ainsi que les conclusions du groupe d'experts de l'ONU sur l'aire du Congo, les groupes d'études sur le Congo et d'autres organisations congolaises de défense des droits humains. Il y a aussi plusieurs autres groupes armés qui opèrent dans la zone et qui ont été impliqués dans ces massacres, ainsi que certains officiers de l'armée congolaise et des soldats qui ont été impliqués dans la planification et l'exécution de beaucoup de ces attaques. Spécifiquement, il y a le général de brigade Muhindo Akilimundo, qui est un commandant de l'armée congolaise qui entretient des liens étroits avec le président Joseph Kabila, qui était chargé des opérations contre les ADF de août 2014 à juin 2015.
C'était Ida Sawyer, directrice adjointe du département Africa Human Rights Watch. C'est la fin de cette édition. La mise en onde, c'était Michel Joseph, à la console Nashwan Kale, à la présentation Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous en compagnie de Henri Francisque pour un rappel de l'actualité dans le monde.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique,